Amis auditeurs, bienvenue. Vous êtes sur afopanorama.com et vous écoutez Entrevue. Notre invitée s'appelle Bénédicte Koumbi, historienne et activiste. Nous décryptons avec elle la tribalisation du discours politique au cours de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Bénédicte Koumbi, bonjour.
Bonjour, Magloire.
Vous êtes historienne, vous êtes activiste, vous êtes de l'ONG Likambo Mabélé, une ONG civico-écologique.
Exactement.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La campagne électorale en République démocratique du Congo tire vers la fin. On est à 4 jours. De la date projetée des élections. Et on a remarqué ces derniers temps l'irruption dans le discours politique des considérations d'ordre tribal. On a entendu Vital Kamerhe reprocher à l'accord de Genève d'avoir réservé les hauts postes de direction à des originaires de l'ouest du pays. Et quelques jours après, on a entendu l'épouse du président de la République tenir un discours dans lequel, en imitant l'accent des Baluba, où elle disait que les Baluba auraient promis d'écraser les Swahili comme on écraserait de la caisse. La vidéo circule sur Internet. Et donc, elle donnait un message selon lequel les Swahili ne devraient pas voter pour Félix Tshisekedi, sinon il risquait d'être écrasé. J'ai envie d'avoir votre avis. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à on va appeler ça des dérapages, sur les thématiques de la tribu au cours de cette campagne électorale?
En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais pouvoir m'éloigner, au fond de ces histoires, même si je pense que il est important de les regarder comme la manifestation au fond de mémoire, ce sont des mémoires blessées. Mais pour pouvoir interroger ces mémoires, je crois qu'il faut pouvoir retourner dans le temps. Il faut regarder ce qui s'est opéré au moment, enfin, de la colonisation en particulier, parce que la question de la tribu, ça a été un instrument utilisé par les colons pour faire une chose bien précise, c'est-à-dire disqualifier au fond nos cultures. Et pourquoi disqualifier les cultures? Parce que en réalité, la culture, c'est le moyen qu'a tout individu de pouvoir trouver des réponses à des questions qu'il se pose. C'est une des fonctions premières. Et lorsque l'on coupe les individus de ce recours à des réponses qui vont le construire, qui vont le réconforter, qui vont le rassurer, ben il reste plus beaucoup de possibilités. Et lorsqu'on entend ces discours, et particulièrement celui de Madame Limbe, l'idée même d'être écrasé, d'être écrasé comme la KS. L'idée de l'annihilation, enfin de la mort, qui est là présente, hein, et qui est en fait la résultante d'une méfiance qui n'aurait pas été entretenue. Et c'est parce que la culture, au fond, ici, elle est absente. Elle ne peut pas faire fonction de garde-fou. Donc, forcément, on va produire de l'agressivité pour éloigner le danger possible, en fait, qui se présente à nous. C'est comme ça un petit peu que je fais la lecture, en réalité, de ces choses qui se passent et qu'on est en train de voir, effectivement, sur des réseaux sociaux et dans les discours en particulier.
Donc, si je comprends bien, pour vous, ce discours au cours de la tribu est en fait la résultante d'un processus qui a perverti la compréhension même qu'on a de cette notion.
Oui, parce que l'idée, comme je disais, c'est que ce que a institué, en fait, je dirais, l'homme blanc dans l'esprit de l'Africain dominé, c'est que il ne faut avoir recours qu'à une figure emblématique, emblématique du pouvoir, emblématique de la protection, et que lui-même a représenté. Il fallait qu'il disqualifie justement ces cultures pour pouvoir prendre la place dans l'esprit de ceux qu'il voulait dominer. Donc, en faisant cela, en coupant cet individu de tous les comment dire, de tous les recours qu'il pouvait avoir, il pouvait s'instituer lui comme étant la référence absolue. Et ce que c'est quelque chose que l'on retrouve en fait aujourd'hui également, parce que les gens sont éloignés d'une certaine manière de leur culture, n'ont plus recours à ceux qui les constituent et voient ça en réalité comme quelque chose d'extrêmement négatif, même s'ils gardent la langue. Mais on voit d'ailleurs tout le temps cette volonté d'essayer soit d'utiliser le français ou soit d'utiliser autre chose et puis de pas faire confiance à sa propre langue qui est la chose première d'ailleurs qui nous permet d'avoir une vision du monde particulière. Non, on veut aller chercher ailleurs parce que il y a ce problème de notre imaginaire. Donc le recours aussi effectivement à ces figures d'autorité qui maintenant sont peut-être des hommes politiques ou des femmes de présidents comme c'est le cas de Madame Lembe, parce que ils ont laissé, en fait le blanc a laissé de la place à ces gens-là et on va essayer d'y recourir parce qu'il y a une peur aussi tellement profonde de l'annihilation, parce que quand on vous coupe de votre culture, de votre terreau, de ce qui vous a construit en tant qu'individu, c'est une mort que l'on vous assène. C'est une mort, et donc du coup, cette mort qui est là et puis qui traverse en fait les âges et les générations, qui n'est jamais discutée, quelque part la combattre, c'est de dire qu'on va avoir des personnages plus ou moins forts qui seront les gardiens en fond de notre propre intégrité physique et morale. Donc c'est ces choses-là que moi je vois apparaître. Dans toutes ces questions en fait de tribalisme, c'est que en fait en réalité c'est pas de tribalisme qu'on devrait parler. Si on veut rendre ça plus positif, c'est de culture qu'on devrait parler. Et le génie du Congo, c'est d'avoir justement toutes ces cultures, c'est d'avoir ces particularismes extrêmement élastiques qui peuvent intégrer d'autres formes de compréhension et de vision du monde pour pouvoir produire quelque chose d'original et qui devient à ce moment-là du Congolais. Et tant qu'on n'aura pas réfléchi ces choses, eh bien on va s'entre-déchirer, on va se traiter de tribaliste, on va se traiter de ceci ou cela, sont réalisés l'immense en fait capacité créatrice de nous-mêmes que nous avons.
Dire de Madame Olive Lembe qu'elle est proche du pouvoir, c'est pas trahir un secret. Quand elle, qui est supposée être la première dame du pays a un discours dans lequel elle se positionne par rapport à une communauté en prétendant qu'il y en a, qu'il y a une autre communauté qui serait opposée à la sienne. C'est ce qu'on devrait comprendre. Qu'est-ce que cela traduit pour vous par rapport à la conception du pouvoir de leadership de la part de ce pouvoir, justement?
Mais le problème de ce pouvoir, c'est que il ne s'est jamais institué en réalité, ni ancré en fait dans une réalité africaine. Il ne s'est jamais, pour moi, constitué en tant qu'Africain d'abord. Je pense que ce sont des individus qui, pour pouvoir exister, ont besoin d'être en réalité quelque part institués justement par ces forces extérieures et quand on les regarde bien, ce sont pas des forces neutres quelque part, je veux dire du point de vue de la carnation, ce sont quand même des blancs. Et donc du coup on rentre pour moi dans cette problématique je crois qui est vraiment quelque chose que les Africains devraient discuter, c'est quelle est notre part de création de nous-mêmes, comment on se crée nous-mêmes, pourquoi nous devons passer par le regard de l'autre pour pouvoir exister. Et le problème, c'est que parce que nous n'avons pas une existence propre, et quand on regarde les autres, en réalité, ils nous renvoient à cette idée que nous n'avons pas d'existence propre. Et je pense que de là découle une certaine forme de violence qui doit s'exercer parce que, d'une certaine manière, on doit aussi éliminer le regard, l'être qui nous renvoie à nos identités bancales, à notre incapacité de nous constituer en tant qu'être propre, individuel et existant à nous-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que en ce qui concerne cette dame en particulier, c'est cette problématique qui est là également. Je crois que les origines justement de la violence, parce que son discours est violent. Il est extrêmement violent, mais c'est un discours qui pour moi traduit l'incapacité de se constituer soi-même en tant qu'être. Et lorsqu'elle dit ça, lorsqu'elle menace même les gens, et il y a sa gestuelle qu'il faut observer, elle est très comme ça directive, elle a les doigts qui sont qui pointent les uns et les autres, où elle voudrait avoir une autorité qu'elle n'a pas même quand elle regarde les autres, parce que ce qu'elle suscite de la part de ceux qui sont autour d'elle, et quelque part confusément, elle doit le sentir. Moi, j'aimerais pas faire ici de la psychologie de bas étage, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre justement d'un regard qui lui est renvoyé, qui n'est pas un regard qui l'institue elle-même en tant qu'être. Et son incapacité et leur incapacité à tous de s'instituer en tant qu'être, d'où ces violences extrêmes que l'on voit qui sont produites par ces gens. Hein. Et ils sont vraiment le produit pour moi de cette tension qui est encore en Afrique justement entre des êtres africains et de nouveau ce monde colonial qui pèse encore énormément sur nos destinées, hein, et qui nous voilà, qui nous entoure, que ce soit les télévisions, que ce soit les musiques des fois qui sont balancées des fois sur certaines radios, que ce soit l'habillement que l'on peut arborer. Nous ne le faisons pas en toute liberté. Nous le faisons parce que nous sommes quelque part obligés. Et la négociation entre les deux est extrêmement dure. Et je pense qu'il y a des êtres peut-être encore plus sensibles justement à cela. Et c'est peut-être ceux qui produisent au fond en réalité le plus de violence, parce que le problème se pose de manière peut-être beaucoup plus féroce chez eux que chez certains d'entre nous.
Vous avez évoqué tout à l'heure la capacité de l'homme africain à se créer en tant que tel. Par rapport à la question dont nous discutons, est-ce que vous pensez que lorsque un membre d'un groupe ethnique regarde les autres, ce qu'il voit, est-ce que c'est ce que le groupe ethnique est réellement, ou alors il voit la construction coloniale de ce groupe ethnique qui nous a été laissé?
Je crois qu'il y a des individus, parce que je pense que ça serait faux d'avoir une forme de généralisation comme ça par rapport au regard que les gens peuvent poser sur certains individus. Je crois qu'il y a des gens, quand ils regardent d'autres, ils voient des hommes, ils voient des Congolais, parce que peut-être instinctivement, ils vont en fait essayer de faire lien avec ce qui les réunit, avec ce qui fait qu'ils ont cette particularité congolaise dans le monde. Ils vont se raccrocher. Non, mais ils vont plutôt prendre ça, hein, et puis en faire justement quelque chose de positif. Et voilà. Par contre, effectivement, je pense que pour certains, il y a un regard où il y a une construction coloniale de l'autre. Mais c'est surtout, je crois, dans la peur, parce que par exemple, et puis on va pas faire de langue de bois. On va parler du fait que quand même la plupart du temps, ce que l'on observe dans ces accusations de tribalisme aujourd'hui, ça provient quand même de l'espace Kassai, où on a des gens qui se sentent mal aimés, attaqués au Congo. Mais je pense que si l'on prend l'histoire, et c'est une des régions du Congo où on a eu le plus de gens, c'est vrai, qui ont été déplacés durant la colonisation, qui ont été amenés à travailler dans des mines, parce qu'on considérait aussi qu'ils étaient forts, et tout ce genre de choses. C'est des gens qu'on a appelés aussi des déchets quand ils pouvaient pas servir. Il y a les autres Congolais également, hein. Mais il y a quand même une particularité par rapport à ça. Et je pense que, d'une certaine manière, il y a un traumatisme, effectivement, qui s'est mis en place là, mais qui n'a jamais été discuté, n'a jamais été mis sur la table et puis essayé d'être soigné d'une certaine manière. Et donc cette peur, je pense aussi, de l'annihilation, fait qu'il y a aussi un renfermement peut-être du groupe sur lui-même, et qui peut aussi produire justement ce regard par rapport à l'autre, qui est inconstruit, de l'autre qui peut devenir dangereux potentiellement pour soi-même. Mais le problème, c'est que cet autre dangereux, son regard n'est pas discuté au regard de sa propre histoire. Et c'est peut-être là la difficulté. Et chez les autres, il y a aussi un regard qui est peut-être effectivement une construction. Moi, par exemple, j'essaie encore de comprendre, par exemple, cette phrase où on dit, jamais mon Louba Arousala, mon Kondinambo. Je ne comprends pas cette phrase. Elle me paraît tellement absurde, parce que je me dis, sur quelle base on peut proférer ce genre de choses? Sont-ils si différents que nous? Il y a quand même, avant même que l'on soit congolais, africain, ce genre de choses, il y a une humanité qui nous lie. Et cette humanité fait que il y a des individus qui sont peut-être pour soi-même effectivement plus acceptables que d'autres, mais du fait de leur sympathie ou pas, ou de ce que l'on partage. Donc cette phrase, pour moi, chaque fois que je la lis, je comprends le sentiment avoir les gens qui reçoivent ça, et la totale stupidité, je suis désolée de le dire, des personnes qui profèrent ça. Pour moi, c'est comme, hein, moi, je veux dire, bon, on n'a pas envie de parler des identités, mais moi en tant que personne venant du Banodo, je suis pourtant pas Mouyaka, mais l'histoire des Bayaka, à chaque fois qu'on en parle, c'est une violence, parce que je me dis, mais attendez voir. Comment vous pouvez prendre une expression comme ça et stigmatiser toute une, je veux dire, une partie de gens qui forment en fait votre nation? Que nous rions de nos travers les uns des autres, que l'on joue sur nos accents, comme les gens ici, les gens qui parlent en Suisse, on va rire de l'accent québécois, on va rire de l'accent belge, et puis les Français vont faire de même. Et tout, c'est de bonne guerre, c'est des plaisanteries, et voilà. Et on sait qu'on a des identités suffisamment fortes pour pouvoir résister aussi à ce genre de choses, et puis à la limite même de rire de bon cœur. Et que moi, je pense que nous devrions pouvoir arriver à ce genre de choses. C'est pas parce que quelqu'un rigole de l'accent de je ne sais quelle partie du Congo que tout de suite on est dans l'attaque. C'est pas ça. Et nous devons voir nos identités comme des identités positives, des identités fortes, mais qui doivent créer un ciment qui est le Congo. Nos particularismes, ils sont positifs, quoi. Ils sont positifs. Moi, quand j'entends chanter en Tshiluba, je trouve ça magnifique. Comme quand j'entends chanter en Kikongo, je trouve ça magnifique également. Hein. Et j'aime entendre le Swahili, et puis je me dis, zut, quoi, c'est pas une langue que je parle, quoi. Parce que je me sentirais personnellement entière si je pouvais maîtriser toutes les langues du Congo. Parce que c'est ça qui doit être notre identité. C'est cette multiplicité des choses. En tout cas, c'est ce qui me semble.
Si je vous suis bien, il y a comme une double problématique. Il y a une blessure traumatique au niveau du Kasaï liée à l'histoire coloniale et qui peut expliquer que les compatriotes originaires de cette région aient une sensibilité particulière par rapport aux menaces venues de dehors.
Oui, mais comme l'Équateur peut l'avoir aussi, parce qu'il y a aussi eu des mains coupées, qui se sont quand même, la question du caoutchouc, elle se trouvait là. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé par rapport au Congo, les 10 millions de morts qu'il y a eu du fait de Léopold, aujourd'hui, on peut dire que chaque Congolais, quelque part dans sa famille, a une mémoire traumatique, a un membre de sa famille, en tous les cas, qui a dû être malmené par le colon belge. Et moi, ce qui m'importe là-dedans, quand je dis ça, là, j'ai pris l'exemple du Kasaï en particulier, parce que, comme j'ai dit, on doit aussi arrêter de faire de la langue de bois et se dire que ce que l'on voit, c'est autour de ces espaces-là que le discours se focalise en ce moment. Mais je pense que ce qui est important, c'est que pour les Congolais, c'est d'interroger ces mémoires traumatiques. C'est de les interroger pour pouvoir sortir d'une certaine forme de peur qui est là, de peur de ne plus être nous, de ne plus exister, et qui nous a été appris de la manière la plus horrible et la plus violente qui soit. On dira jamais assez que la colonisation belge a été une des pires colonisations sur le continent africain. Et donc, et on a été exposé à la violence derrière nous, quoi. Et je pense qu'il faut pas l'oublier. Ces violences-là, elles sont encore actives. Et la peur de l'annihilation, elle se manifeste sous diverses formes, mais elle est là. Et tant que l'on n'aura pas discuté ces questions, on souffrira ce genre de choses. On s'empoignera sur ces identités. Et en plus, c'est exacerbé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui eux-mêmes ont été manipulés justement par les puissances coloniales, où il y avait un antagonisme très fort, Tutsi ou tout, et qui, parce qu'ils n'ont pas d'autre vision du monde que la leur, voudraient l'imposer chez nous également, voudraient faire en sorte que nous voyions le monde tel que eux ils le voient. Et d'où le travail justement sur ces identités. C'est pour ça que le discours de Vital Kamerhe est irresponsable, est totalement irresponsable, parce qu'il joue justement sur ces espèces d'affrontements binaires. mais qui peuvent pas prendre, et c'est pour ça qu'il ne peut pas. Et pourquoi il n'est pas allé, pourquoi il n'a pas dit, par exemple, je sais pas, bon, moi je connais pas, hein, les origines vraiment de monsieur Fayoulou, de monsieur Matungulu, de monsieur voilà Mouzito, je veux pas, mais pourquoi il a pas parlé de leur visage, de leur village, pardon, pourquoi il a dit l'ouest et l'est? On est dans des affrontements binaires parce que c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à s'opposer à deux blocs que de s'opposer à des gens qui viendraient de tel village et de tel village. Le Bandundu, c'est grand. C'est pas une unicité. Il y a différentes langues qui se parlent dans cet espace-là. Pourquoi ne pas dire, voilà. Et en plus de ça, il rentre la chose en disant même l'Équateur, c'est l'Ouest. Non, si on regarde la géographie, l'Équateur, c'est pas l'Ouest. On est au Nord. On est au Nord du Congo. Donc même la géographie du Congo, elle est simplifiée dans un but d'affrontement binaire. Le même type d'affrontement que l'on a vu au Rwanda. Et le même type d'affrontement, il faut pas l'oublier, qui est compréhensible pour le blanc. Et j'insiste là-dessus. Parce que de rentrer dans la subtilité de ce qui constitue l'Afrique, c'est pas possible. Le discours que l'on vend à l'extérieur par rapport à l'Afrique, quand on parle de violence ethnique, de ce genre de choses, c'est toujours deux groupes qui s'affrontent. C'est pas plusieurs groupes, voilà, pris dans telle ou telle chose. Et c'est pas seulement par rapport à l'Afrique, c'est par rapport au reste du monde. Et ça, c'est la vision aussi, du monde occidental, ces affrontements binaires. Et c'est contre ça que nous devons justement lutter. C'est là où les identités plurielles congolaises sont une réponse justement à toutes ces questions de tribalisme et ces questions de stigmatisation des individus. Nous devons réclamer cette pluralité des identités dans cet espace particulier qu'est le Congo, parce que c'est ce qui crée notre force, c'est ce qui crée notre force, c'est ce qui crée notre créativité, c'est ce qui crée notre présence au monde. C'est parce que nous sommes diverses, parce que nous sommes pluriels, et nous ne sommes pas justement est, ouest. Nous sommes est, ouest, nord, sud, centre. C'est ça. Et on doit lutter justement contre ce genre de discours. Et par rapport à ce que vous me posiez comme question, par rapport à ces questions de traumatisme, il faut que ça soit discuté pour que justement nous puissions récupérer la positivité de ce que c'est d'être pluriel et de se sentir comme étant ces individus qui sont riches des autres aussi également. Notre monde ne peut pas se construire s'il n'y a pas un autre devant nous. Un enfant n'apprendra jamais rien s'il n'a pas quelqu'un en face de soi. Et on peut pas, je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas toujours avoir le même devant soi parce que sinon c'est la sclérose. C'est pas possible. Être confronté au monde, c'est être confronté aux diverses. Il y a quelque chose dans notre pays qui est de l'ordre du génie. C'est du génie. Et je dis, moi, quand j'y pense, je me dis, mais c'est dingue tout de même. Je peux pas vraiment sortir. Je pense au Congo, je me dis pas, ah, ceux-là, ils sont majoritaires. J'arrive pas. Même si on sait que par rapport, oui, à la démographie, il y a des régions qui sont peut-être plus peuplées que d'autres. Mais il y a comme une espèce de génie qui fait qu'on est plus ou moins tous égaux. Et on nous a fait tellement justement pour qu'il n'y ait pas ces affrontements. Qu'il n'y ait pas ces affrontements. Comment on peut ne pas être fier d'avoir un pays qui a cette même diversité d'un point de vue de la nature? C'est un pays qui n'est pas le même du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et cette diversité, cette beauté-là, quelque part, elle se traduit en nous aussi, humains congolais, peuple congolais. Et donc, c'est ça que nous devons absolument garder, c'est ça que nous devons, à mon avis, cultiver. Et quand on est à l'extérieur, on est congolais. Parce que moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est vrai avec le temps. Quand j'étais enfant, je grandissais ici à l'extérieur, en Europe, toutes les personnes qui venaient, tout ça, on était zaïrois. Moi, j'entendais pas des histoires de, oh, il est de telle région, de telle. Et c'est en étant maintenant adulte que je vois les Congolais commencer à dire, moi je suis Moswahili, moi je suis Ngombe, moi je suis, non, c'est pour moi c'est proprement hallucinant. C'est hallucinant de voir ça. Et je me dis que nous devons, ceux qui peuvent résister, doivent résister à ce genre de choses. C'est extrêmement important. Et c'est comme ça que nous allons guérir, à mon avis, les traumatismes qui sont là.
Je parlais tout à l'heure d'une double problématique, donc de ces groupes de population qui avaient été déplacés, qui avaient été agressés à l'époque coloniale. Et en fait, face à des agressions extérieures, il y a un mouvement normal des populations, c'est de se regrouper pour essayer de faire face à l'ennemi qui vient vers nous. Et là, on a comme une résurgence justement de ces peurs-là qui font que plus ou moins des communautés auraient tendance à se regrouper par rapport aux autres, par la peur des autres. C'est ce qui est instillé dans ce discours-là. Alors, il y aurait des communautés qui sont qui se sentiraient un peu plus menacées que d'autres. Mais est-ce que cela ne traduit pas, ou dans quelle mesure pour vous, l'écologie dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, ici et maintenant, serait-elle proche de ce qu'on avait à l'époque coloniale et qui expliquerait la résurgence de ces peurs-là?
Quand on parle de ce qui arrive par rapport au Congo, si on essaie de sortir de l'analyse, je suis désolée, mais j'ai envie de dire bête et stupide et vraiment de premier degré, qui ne prend pas en compte les influences des uns et des autres en dehors de nos frontières. Oui, on va se dire on a 2-3 personnes qui sont en train de nous causer du tort et puis qui font que nous n'avançons pas. Je crois que le problème du Congo et surtout depuis la conférence de Berlin, et ça n'a pas changé, c'est que c'est un territoire qui a toujours été conçu comme un espace où chacun pouvait venir et se servir. Tout le monde pouvait venir et se servir. C'est un espèce de supermarché contrôlé par 2 ou 3 puissances qui fait que cet espace est continuellement agressé. Il y a à chaque fois une réactivation, à mon avis, des traumatismes des populations. Parce que l'agression, elle est constante. Elle ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, on parle de néo-colonialisme en ce qui concerne ces phénomènes que l'on voit en Afrique. Donc, je pense qu'on peut effectivement faire une similitude par rapport à cette époque coloniale, par rapport à la violence que ces intrusions constantes ont représenté pour ces populations. Aujourd'hui, il est peut-être des fois plus difficile pour les gens de le réfléchir en ces termes parce que les agresseurs ont la même couleur que nous. Ils nous ressemblent. Et peut-être que pour beaucoup de gens, ils ont du mal à voir que ils sont les instruments de ceux qui étaient présents avant, mais seulement ceux qui étaient présents avant, ils sont plus présents, on va dire, physiquement sur le territoire. Mais avant, la force publique, par exemple, faisait quand même le job que fait un pays comme le Rwanda ou l'Ouganda aujourd'hui. Mais là, on voyait le colon. Là, le colon, il est plus là. Et par contre, la forme d'agression, la forme de violence dans lesquelles vivent les populations sont toujours là. Et elles se sont même intensifiées. Parce que si, Léopold, on parle du nombre de morts, même si il y a beaucoup d'historiens occidentaux aujourd'hui qui contestent ces chiffres, qui font tout pour contester ces chiffres en disant que ça a été exagéré parce qu'il fallait montrer la barbarie du règne de Léopold. Cependant, on voit aujourd'hui que, en tous les cas, avec toutes les années de guerre que subit le Congo, on va aller au-delà de ces 10 millions. On va aller au-delà de ces 10 millions de morts. Donc, il montre aussi l'intensification de cette violence. Et ce qui nous arrive aujourd'hui et la forme d'agression que nous subissons, elle est peut-être là différente dans le sens où aujourd'hui on le sent, peut-être qu'on le sentait pas à l'époque, mais on voit bien qu'il y a une volonté de se débarrasser de cette humanité congolaise. La différence aujourd'hui, c'est peut-être la conscience, en tout cas pour certains d'entre nous, dans la forme de violence que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes face à un génocide. Et un génocide, ça signifie l'éradication de notre humanité, de notre existence. Donc, je pense que psychiquement, c'est une violence assez incroyable. Et peut-être que là réside une des grandes différences. Quoique, nous ne savons pas non plus ce qu'on peut forcément savoir ressentir nos ancêtres. Peut-être qu'ils ont aussi compris qu'ils étaient en train d'être exterminés et puis qu'ils avaient affaire à un génocide. Nous n'avons pas assez accès à des peut-être des sources corroborant cette chose, mais il y a cet aspect-là, je pense, qui a son importance par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui.
Donc je rappelle à ceux qui nous rejoindraient maintenant que je reçois Bénédicte Koumbi, historienne et activiste, et nous sommes en train de discuter de questions de tribalisation du discours politique et en train de voir principalement l'origine de ce comportement et ce que ça peut avoir comme conséquence. Bénédicte Koumbi, l'enjeu pour le pouvoir actuellement, c'est son maintien. L'actuel président a épuisé ses mandats, il a choisi un dauphin. Et en fait, pour le camp de pouvoir, c'est tout faire pour continuer à rester au pouvoir. En quoi est-ce que le discours, ce discours tendant à opposer des communautés, pourrait jouer en sa faveur dans ce but-là?
Ben, je crois que il faut revenir à quelque chose, je pense, d'essentiel pour comprendre peut-être ce qui se passe au Congo. Comme j'ai déjà pu le dire, je pense qu'il faut considérer le Congo comme étant un État raté. Et un État raté, c'est un État qui déstructure complètement les questions sociales, économiques, politiques, militaires. C'est-à-dire, c'est un État qui n'existe pas, en fait, en réalité. Et qui produit de la violence contre ses propres habitants. Et le rôle de Monsieur Kabila a été de travailler à ce que l'on devienne un État raté. Il a été envoyé pour que le Congo soit déstructuré et pour que le Congo, en fin de compte, soit coupé en petits morceaux, parce qu'on déclarera que c'est un État raté, qu'il soit coupé en petits morceaux et comme ça, beaucoup plus faible, en fait, en réalité, dès le moment où on aura diverses entités, beaucoup plus faible et beaucoup plus, en fait, la proie, en réalité, de tous ceux qui pratiquent la prédation sur cet espace particulier. Le discours tribal, même si j'aime pas utiliser ce terme, dû à sa référence coloniale, mais ce discours-là peut très bien amener au lendemain de ces élections certains à dire « Ah ben, nous, Félix peut-être va dire « Moi, je vois que j'ai une puissance au Kasaï, on se retire. » On a dans l'histoire du Congo, on a déjà eu des sécessions. « Moi, je me retire. » Au Katanga, l'autre, il va dire « Ah ben, moi, je fais mon pays. » Et chacun va faire son petit pays. D'accord, comme l'autre monsieur qui nous disait qu'il avait l'Est, ils vont faire l'Est, quoique l'Est, dans ce qui est prévu pour eux, c'est qu'ils soient quelque part intégrés au Rwanda, qui a des problèmes aussi de surpopulation, qui trouverait là en fait un moyen de faire face à aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc en fin de compte, c'est pour ça que ces discours sont extrêmement dangereux. Parce que, en fait, en réalité, c'est une façon de préparer les esprits. Et il faut pas oublier que nous sommes dans une guerre. Et que, dans la guerre, On prépare les esprits. Il y a de la propagande. Il y a de la manipulation. Parce que l'on veut aboutir à un résultat certain. Donc tous ces discours d'affrontement, tout ce qui est travailler pour que nous, Congolais, nous puissions enfin dire, et on entend déjà les gens qui disent « Ah, Bakata Karamboko, hein, qui le coupe, on n'en veut plus. On veut plus de tout ça, parce qu'on pense que si on le coupe, eh ben ça va s'arrêter. » C'est la, moi j'appelle ça la pensée magique. C'est un peu les enfants, hein. Je vois plus tout ça, alors ça n'existe plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et c'est comme cette pensée que l'on a. D'ailleurs, que Pierre Mulele avait bien compris par rapport au travail, justement, du colonialisme sur la psyché, en fait, des Congolais. C'est qu'on en arrive même à penser que si on change un monsieur pour un autre, tout va bien aller. Mais on n'interroge pas les racines, le système qui est mis en place. Est-ce qu'un monsieur Fayoulou est moins un homme du système que le serait un Tshisekedi ou que le serait peut-être éventuellement même ce Chadari? C'est là où nous devons nous poser la question. Et comment justement nos discours qui peuvent devenir des poisons vont concourir à la dislocation de ce pays et en fin de compte faire de nous tous des esclaves plutôt que des hommes. Je crois que c'est ça qui est en jeu dans quelque part.
Oui, corrigez-moi si je me trompe, si je vous comprends bien. De prime abord, c'est un discours qui paraît absurde parce que celui qui veut rester au pouvoir n'a pas intérêt à prendre position pour une communauté contre une autre. De plus abord, le discours paraîtrait absurde. Mais si on se met dans la logique que le but ultime est de faire en sorte que ce pays soit un espace de prédation, et donc pour qu'il soit un meilleur espace de prédation, il faut que les gens soient divisés, donc là, ça prend tout son sens. Dans un cas, le pouvoir remporterait ces élections, et donc tant pis s'il serait perçu comme le pouvoir d'un groupe de population. Il y aura toujours des affrontements. Dans l'autre cas, on perdrait les élections et on pourrait toujours dire bon, on va accélérer la séparation des peuples dans ce pays. C'est un peu ça qu'on devrait comprendre.
Oui, moi je pense que c'est exactement ça qu'on doit comprendre, et d'où la nécessité de parler de la refondation du Congo. C'est pour ça que c'est nécessaire de penser à ça dans cette optique-là. Moi, j'aime toujours penser au fait que lorsque vous avez une armée, quand les gens font la guerre, le but de la guerre ne change jamais. Il change pas le but. On va adapter peut-être des contingences, mais le but de la guerre, lui, ne change jamais. Ça, c'est quand même une leçon de Clausewitz qu'il faudra avoir à l'esprit. L'allemand fait très bien la différence entre le but et le moyen terme, mais le but ne change pas. Et on se pose pas la question de savoir pourquoi la guerre a été commencée contre le Congo. Qu'est-ce qui se passe là? Et tant qu'on se pose pas cette question, on peut pas faire sens. On aura justement des idées comme ah, on change le monsieur et puis c'est bon quoi. Et on va vivre tous heureux, on sera tous congolais. Non, parce que le but de la guerre ne change pas. Et le but de la guerre, c'est de prendre cet espace parce que on considère que nous n'avons pas à vivre nous sur cet espace si riche. Moi, il y a toujours cette histoire quand j'entends les Congolais et je me désole quand je les entends dire oui, le Congo, c'est un scandale géologique. Mais est-ce qu'on a déjà fait, on allait déjà rechercher l'étymologie du mot scandale? Le scandale, c'est ce que l'on ne peut accepter. On ne peut pas accepter. Et ce géologue belge, que ne pouvait-il pas accepter? Il ne pouvait pas accepter que ce territoire qui regorgeait effectivement de toutes ses richesses soit habité par des êtres indignes. S'il est là le scandale. Et c'est pour ça que nous devons, quand nous utilisons certains termes, Nous devons les interroger et arrêter de répéter ce que disent de nous les autres. Le Congo, parce qu'on, quand on parle de Congo, on dit, ces minerais sont des malheurs. C'est un malheur pour les Congos. Ces minerais et tout ça. Non. Ça ne l'est pas. Mais seulement, à nous de savoir comment nous devons faire pour garder quelque chose qui est un bonheur. Le Congo a une vocation mondiale, a une vocation humaine. Pour moi, c'est la partie peut-être un peu où je suis peut-être plus trop scientifique quand je dis ce genre de choses. Mais je pense que le Congo a un message effectivement pour le monde. L'idée de partage par le fait de ce que nous sommes, de ces diversités, comme je dis. Le fait effectivement que ce pays, ben oui, c'est un carré minier à lui tout seul de d'est en ouest, de nord au sud, de tout ce que vous voulez. Et c'est un pays qui a donc cette potentialité de faire en sorte que d'autres vivent mieux autour de nous. Mais nous avons affaire au-delà même de cette cupidité qui est là, hein, qui est quand même un des modèles de la construction occidentale européenne, ce capitalisme. On a cette cupidité qui est là et qui voudrait nous faire changer notre vision du monde par rapport à ça. Et je crois que c'est là où nous devons lutter de toutes nos forces. On doit lutter de toutes nos forces et puis effectivement maintenir cet espace. Maintenir cet espace parce que il a quelque chose à dire au monde. Il a quelque chose à apporter au monde. Et c'est certainement un autre discours que cette espèce de capitalisme qui mange les cœurs et qui produit des morts. Là, en France, on a des gilets jaunes, ils sont en train de se battre contre quoi, là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, tous ces gens? S'ils sont pas en train de parler, justement, de ces systèmes. Donc, nous devons avoir une réflexion très profonde. On peut pas rester dans le superficiel, il faut aller chercher, il faut creuser, il faut essayer d'avoir une compréhension de tout ça pour pouvoir apporter des réponses adéquates au problème qui nous est posé aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des pistes de solutions pour que les différentes communautés qui vivent à RD Congo sortent de cette peur des unes des autres, qui si on ne prend pas garde, qui peut être manipulé par les discours politiques ou par les politiques. Comment sortir de cette peur entre les uns et les autres et restaurer une confiance qui ferait qu'on va construire un pays avec beaucoup plus de fraternité et beaucoup plus d'allant vers un monde meilleur?
Je pense qu'effectivement c'est un travail de tout le monde, mais je pense que il y a des gens en particulier pour moi qui vont être déterminants par rapport à cet avenir. Et je pense que les psychiatres, les psychologues, il faut les prendre dans leur acceptation positive de soignants, pas de gens qui enferment, parce que souvent les gens ont cette vision des psychiatres qui enferment des gens. Je pense que dans tout, dans l'esprit de chaque, en tout cas de Quinois, même quand on a quitté le Congo depuis très longtemps, CNPP, c'est leur art. Hein. Mais je pense que c'est effectivement une partie, en tous les cas, de la société qui devra jouer un rôle majeur, un rôle d'explication et effectivement le rôle de soignant, de soigner ces mémoires qui sont blessées. Les historiens auront à faire également leur part de travail parce qu'ils devront parler de ce passé. Il faudra qu'on amène la discussion entre les Congolais et on devra apprendre à s'écouter. Et que quand quelqu'un, parce que moi c'est des fois comme ça que je le ressens, même quand je lis sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un dit oui mais vous nous insultez tout ça, ce sont des souffrances qui sont exprimées. Ce sont des souffrances qui sont exprimées. Nous devons avoir cette oreille attentive. Mais comment faire ça? Je pense que on peut avoir recours à des choses qui sont des pratiques africaines de la parole, les kinzones, tout ça. On peut utiliser ça pour pouvoir ouvrir cette parole, pour que les gens puissent écouter, s'asseoir et écouter. Parce que des fois, j'ai le sentiment que justement la valeur de l'écoute, on l'a plus trop, parce qu'on est ballotté d'un point à l'autre. Et je pense que en faisant ces travaux sur les communautés, petit à petit, hein, sur ces communautés, les amener à la parole, les amener à dire les choses, on peut trouver un chemin par rapport à ça. Et puis, il faut pas se leurrer. Tout ceci est aussi rendu possible, on l'a dit, c'est parce qu'il y a une guerre. Donc, nous devons absolument faire en sorte que cette guerre s'arrête. Parce que tant qu'elle sera là, et elle dure depuis trop longtemps, nous sommes dans une guerre d'usure, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils sont en train de nous user notre patience, user notre compréhension, user notre intelligence, user nos cultures, auxquelles on n'aura plus recours pour pouvoir répondre aux problèmes qui se posent à nous. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire d'arrêter cette guerre et de faire prendre d'abord conscience aux Congolais qu'ils sont en guerre, qu'il y a une guerre qui est là. Elle n'est pas chaude, c'est une guerre de basse intensité, mais c'est une guerre, et il y a des gens qui nous mènent la guerre. Et si nous n'identifions pas les personnes qui sont en train de nous mener la guerre, nous allons encore parler pendant longtemps de ces souffrances et ce genre de choses. Je crois que la chose vraiment peut-être primordiale, c'est d'essayer d'arrêter cette guerre. Et la guerre, l'arrêter, ça passe par la compréhension de ce qui nous arrive. Je crois que c'est Aminata Traoré qui disait que si nous vivons ce que nous vivons, c'est aussi notre refus de comprendre. C'est notre refus de comprendre ce qui nous arrive. Et tant que nous serons dans cet état d'esprit-là, oui, ça continuera. Il n'y aura pas de solution. On pourra toujours dire que des élections vont venir changer un type pour un autre. Ça ne marchera pas. Nous devons arrêter la guerre. Nous devons faire en sorte que les gens puissent récupérer leur vie. Alors, bien sûr, on me dira, oui, mais on n'a pas d'armes, on n'a pas ce genre de choses. Oui, mais une population, c'est la plus grosse armée qui soit. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent avec des pierres depuis je ne sais pas combien d'années. Et malgré tout, même si, oui, on grignote leur territoire, mais ils sont là, ils se battent avec ces pierres. Et je crois que c'est la première des choses à comprendre. C'est pas les armes. La première des armes, c'est pas les armes. La première des armes, c'est la compréhension. C'est ça, la première des armes. Et c'est ce qu'on s'évertue à nous faire. On s'évertue à nous éloigner de cette compréhension. En usant de ces subterfuges sur les identités, sur un tas de choses qui devraient pas, en fait, être notre point de focal. En excitant nos douleurs, en excitant nos mémoires traumatiques, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et nous devons résister à ça si on veut trouver une solution. Et puis, revenir. Parce que tout le monde, en même temps, vous voyez, il y a une chose quand même. C'est quand vous entendez des Congolais. Oui, il y en a qui sont en train de dire leur souffrance, d'être stigmatisés. Oui. Mais en même temps, ils ont cette espèce de nostalgie de Mobutu parce que Mobutu aurait réussi à nous mettre ensemble tous, à faire ensemble qu'on se considère tous comme des Aérois. Mais je pense que c'est pas Mobutu. C'est notre volonté à nous-mêmes d'être ensemble. Nous avons passé une espèce de pacte qui n'est pas tangible, mais nous avons passé un pacte pour dire que nous étions un peuple et nous étions une nation. C'est pas Mobutu, c'est nous. C'est notre volonté de vivre ensemble. C'est parce que nous avons trouvé du plaisir à être Zaïrois. Aujourd'hui, nous avons peut-être moins de plaisir à être Congolais. Et ce plaisir-là, il faut qu'on le retrouve.
Vous avez évoqué tout à l'heure les gilets jaunes. Font leur réclamation, c'est par rapport aux conséquences de ce capitalisme mortifère qui étend son emprise partout dans le monde et qui exclut certaines franges de la population. Il faut dire que la guerre de basse intensité que nous vivons à RD Congo a une fonction aussi. A une fonction, elle fait vivre ce capitalisme-là. Elle fait vivre ce capitalisme. Et le rapport mapping de Nations Unies, publié il y a 8 ans déjà, 8-9 ans, mm-hmm. En dit long sur ce qui se passe. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que les Congolais ont suffisamment conscience du fait que la situation de guerre de basse intensité dans laquelle nous vivons est une occasion ou est un contexte favorable pour engraisser ce capitalisme-là, pour le nourrir, et qu'à partir de ce moment-là, tant qu'il y a des gens qui se feront de l'argent sur la situation, ils vont tout mettre en place pour entretenir cette guerre?
Je pense pas qu'il y a tellement cette conscience par rapport à ça, hein. Même on voit même, la jeunesse congolaise, peut-être même plus en phase, on va dire, même avec les nouvelles technologies, même si il n'y a pas une pénétration comme ça énorme aussi de ces technologies sur nos territoires. Mais je pense que cette dimension-là, il y a beaucoup de gens qui la voient pas, hein, la dimension capitaliste. Comme en Europe, il y a plein de gens qui voient pas cette dimension capitaliste. La première revendication est partie du fait que il y avait une hausse dans le carburant. Mais combien de personnes se sont posé la question de savoir d'où venait ce carburant, comment il était extrait, qui fixait les prix par rapport à tout ça? L'immédiat, la vie des gens de tous les jours qui est mis en avant. On n'interroge pas ce système dans son ensemble, dans ses ramifications, au-delà de son propre petit village, ou même voire de son poste, de son propre petit immeuble, en disant on a le fuel qui est en train d'augmenter. Et c'est bien ça, je crois, une des grosses batailles, c'est de faire comprendre aux individus que tout ça est complètement lié, et que la mort de certaines personnes doit servir le bonheur d'autres personnes. Au Congo, on meurt pour que il y ait des gens qui se fassent des millions sur des téléphones portables, sur des ordinateurs, sur des même les instruments médicaux, parce qu'on oublie. Et ça, c'est pour moi d'ailleurs une des illustrations les plus dérangeantes d'une certaine manière. C'est que suivant les instruments médicaux, il y a aussi du coltan qui est là pour soigner. Le coltan est utilisé dans des instruments médicaux pour soigner certains individus qui se trouvent de l'autre côté de la planète, mais qui de l'autre côté tuent des individus. Et c'est pour ça que même pour moi, il n'y a même pas le téléphone justement pour représenter cette idée de capitalisme. J'aime surtout penser à cet instrument médical qui sert normalement la vie, mais qui doit tuer d'autres individus pour qu'il y en ait un qui vive. Pas deux, un qui vive. Et je crois que c'est un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de compréhension de ce que c'est ce système. Les gens savent même pas. Je pense que c'est le capitalisme en tant que tel. Et je pense que pour beaucoup de Congolais, sans le savoir, ils désirent le capitalisme. Pourquoi? Parce qu'on leur montre des images de richesse et ils se disent ah mais nous on a un pays qui est riche. Donc si demain on récupérait notre pays, eh bien nous serons tous riches. Nous pourrions rouler dans des voitures pas possibles, nous aurions des avions pas possibles, et ce genre de choses. Et moi, je trouve d'ailleurs très intéressant que lorsqu'on écoute les politiques congolais, il n'est jamais fait mention de la question de l'économie. Quel type de système économique nous voulons au Congo? Ce n'est jamais abordé. On va même pas parler de la tyrannie là de Kabila. De toute façon, je veux dire, voilà, ils sont dans l'hyper-capitalisme, l'hyper-libéralisation. Mais les autres, ces opposants, ils sont toujours en train de nous promettre monts et merveilles, que nous allons vivre cela, que tout le monde pourra travailler et tout ça. Mais quel est le système économique dans lequel vous voulez nous faire vivre? Et je crois que c'est une question fondamentale, parce que ça va aussi déterminer le type de société que l'on a envie d'avoir. Quel est le contrat social que nous allons instituer justement pour pouvoir créer cette nation si on ne répond pas à cette question-là en particulier? Et nous devons, comme j'ai dit, elle est essentielle parce que nous voyons aujourd'hui les limites de ce système. C'est un système qui broie les gens. C'est un système qui tue les gens. Et ça, des fois, on voit, on voit certains Congolais, hein, aujourd'hui, même ceux qui sont justement au Congo, se moquer du type de travail que pourraient faire certains Congolais qui se trouvent, eux, dans la diaspora. en les traitant un peu comme des moins que rien. Mais s'ils sont forcés de faire ce travail-là, c'est aussi dû à ce système. S'ils sont obligés parfois de s'échiner, justement comme des nègres, c'est parce qu'ils doivent répondre à la dérégulation que le capitalisme est en train de faire sur l'espace que eux, ils habitent au Congo. Si des gens doivent faire des heures et des heures comme infirmières, comme femmes de chambre, comme tout ce genre de métier que eux, il leur arrive de mépriser, surtout sur ces réseaux sociaux, c'est parce que le capitalisme dit, vous allez faire des travaux de nègres en Europe pour que vos autres nègres de frères qui sont dans la mise, qui peuvent même pas des fois enterrer les leurs, vous envoient de l'argent pour que vous puissiez enterrer dignement un frère, une sœur ou ce genre de choses. Ça, c'est ce que fait le capitalisme. Et je crois qu'il est nécessaire, et je prends à dessein ce genre d'exemple parce que pour montrer la chaîne, la manière dont ça fonctionne, et c'est juste une histoire de se dire, c'est peut-être simpliste ce que je veux dire, mais pourquoi, et c'est ce que j'expliquais à mon fils hein, qui a 11 ans, parce qu'il me demandait ce que c'était ce capitalisme. Je dis, bah, pour essayer de faire simple, bien sûr qu'on peut rentrer dans plus de subtilité, mais ce que j'expliquais à mon fils, c'était, ah ben voilà, dans la nature, tout d'un coup, il y a un pommier qui est là, il y a un type qui décide, qui dit, mais ça, c'est mon pommier. Il va prendre des gens, et puis il va leur dire, écoutez, il faut que vous travailliez parce qu'il faut absolument que ce pommier produise des pommes. Les gens vont travailler pour produire ces pommes, et à un moment donné, il a dit, bon, maintenant on a des pommes, je vais aller les vendre. Je vais vous donner un petit quelque chose à vous par rapport à ces pommes, mais la plus grosse partie des bénéfices que je ferai, je les garde pour moi parce que le pommier m'appartient. Dans le capitalisme, notre travail ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas. Nous travaillons, mais nous ne sommes pas maîtres de notre travail. Nous ne sommes pas propriétaires de notre travail. Nous nous louons comme individus et on nous paye quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont payés bien moins que d'autres parce que le système permet justement qu'on exploite. Parce qu'il faut chercher toujours à avoir justement cette plus-value puis de pouvoir toujours engranger plus de bénéfices. Et nous sommes ceux qui souffrent réellement de ce système. Et les gens qui sont en place dans nos pays, ils sont là pour faire en sorte que ceux qui viennent se servir fassent des bénéfices, mais maximales. Ce qui nous montre à nous, bien sûr que pour quelqu'un qui n'a rien, qui est pauvre et tout ça, c'est beaucoup. Mais en réalité, eux-mêmes, ce qu'ils reçoivent, ce sont des miettes par rapport à ce que eux, quoi, les autres, engrangent. Donc, on doit comprendre ce système parce que ce système est un système qui broie les individus. Mais il faut coupler la compréhension de ce système. Et je reviens par rapport à ce que je disais par rapport au scandale, au fait qu'il y a aussi un racisme qui est là. Et ce racisme, il agit en disant que ces nègres-là ne peuvent décemment pas être le propriétaire, les propriétaires de terres qui peuvent avoir autant de richesses. Et ça, ça doit être couplé. Il faut que nous comprenions ça.
Plutôt que d'avoir des communautés qui s'affrontent entre elles, les communautés devraient bien identifier ces suppôts du capitalisme et faire la guerre à cela, plutôt que d'entretenir la peur comme on est en train de le voir actuellement.
Oui, je crois que c'est un peu ça l'idée, peut-être le résumé. Mais je crois que pour tout individu, il arrive un moment où nous devons essayer de comprendre nos vies. Nous devons comprendre pourquoi nous faisons certaines choses. Nous devons comprendre pourquoi nous prenons des fois certains chemins et qui nous mènent peut-être dans des problèmes. Et des fois, on doit y passer beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi. Et ça, c'est dans nos vies individuelles. Et là, nous devons penser maintenant effectivement à un niveau communautaire. Et en nous disant que c'est la capitalisation de nos compréhensions et de l'intelligence que nous allons déployer, qui vont faire échec à ce capitalisme, à ce racisme, Également. Mais je crois qu'il faut vraiment être dans cette prédisposition de s'interroger et puis peut-être lorsqu'on s'interroge, d'accepter que ce que l'on va peut-être découvrir de nous-mêmes va pas forcément nous plaire. Ce que va nous renvoyer le miroir va pas être forcément plaisant, quoi. Et de pouvoir se regarder dans son entièreté et avec ses déficiences, ces choses qui sont pas très belles, des choses qu'on a peut-être mises sous le tapis, ça peut être déstabilisant. Et ça peut être extrêmement difficile.
Bénédicte Kouminjoku, historienne et activiste au sein de l'ONG Likambo Mabélé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous de l'invitation renouvelée et c'est un plaisir d'avoir cette conversation, même si j'ai le sentiment quand même que j'étais dans un monologue. Mais merci en tout cas des questions.
Mais nous sommes là pour laisser parler nos invités.
Merci.
Merci Bénédicte. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Thank you.